Exposé de philosophie politique par le frère François à Saint-Chaudard, le 27 janvier 1993.
Bon, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de vous présenter un panorama très, très en hauteur, et, j'ose pas dire très élevé, de l'évolution un petit peu, enfin, vraiment dans les très grandes lignes de la pensée politique, tout en gardant présent à l'esprit la question qui nous préoccupe. Alors, ça va de soi. Il y a des pans entiers, même cette très brève présentation des auteurs qu'on vous a faite, des pans entiers de leurs pensées qui ne sont pas abordés, en particulier tout l'aspect institutionnel. Chez les auteurs comme Hobbes et Locke, mais enfin c'est le cas de tous, Baudin de la même façon, les aspects institutionnels, c'est-à-dire quel doit être le détenteur de la souveraineté, les réflexions sur les différents régimes politiques, ces pensées tiennent une place très très grande dans leur réflexion. Alors, évidemment, on n'a pas touché un mot, parce que ça a évidemment des conséquences pratiques tout à fait déterminantes, mais ça n'a pas un lien direct, si vous voulez, avec la question quand même qui nous préoccupe, qui est celle du bien dans la communauté, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut finaliser la communauté. Donc c'est vraiment en essayant de garder ce fil directeur que je voudrais donc essayer de parcourir un peu ce qui représente 12 à 13 siècles à peu près de pensée politique. Vous voyez que c'est très prétentieux, là, les objectifs. Alors, si on part un petit peu du bas empire, au fait de la fin de l'Empire romain, fin de l'Empire romain d'Occident, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit que le christianisme, si vous voulez, des premiers temps, a vraiment hérité des principaux thèmes de ce qu'on appelle couramment la philosophie naturelle, si vous voulez, qui est issue des stoïciens et qui a été transmise par certains grands auteurs latins comme Cicéron en particulier ou Sénèque. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette philosophie naturelle? C'est le concept de loi naturelle, celui d'état de nature et d'innocence première. Donc, vous voyez, la référence à un état de nature, d'innocence, qui a été perdu, rompu par le péché. Donc, l'idée d'une chute. L'idée d'égalité et d'unité humaine. Et puis aussi, c'est des idées clés qui va jouer un grand rôle, c'est l'opposition entre la cité universelle, la cosmopolis, et les cités humaines. Alors, au passage, quand même, je vous indique que vous voyez d'emblée, puisque le terme de bien commun, enfin, on l'a dit, du bien en politique est né, on peut le dire, assurément chez Aristote, combien tout ce contexte des 4e, 5e siècles, enfin, depuis la Rome de Cicéron à peu près, est beaucoup plus, est en porte-à-faux par rapport à la pensée d'Aristote. C'est-à-dire, le caractère, vis-à-vis de la communauté, le caractère naturel de la communauté humaine, qui était présent chez Aristote, si vous voulez, est perdu, en quelque sorte, n'est-ce pas, dans cette pensée du christianisme primitif, enfin, cette pensée politique, qui, au contraire, voit, et ça va être d'ailleurs, on verra chez Saint-Augustin, on va le voir tout de suite chez Saint-Augustin, une sanction, si vous voulez, au péché, dans la nécessité de s'organiser en communauté. On a perdu l'état de béatitude originelle, n'est-ce pas, et donc il faut vivre en communauté pour se défendre, etc. Donc, vous voyez, déjà au point de départ, et alors c'est très net chez Saint-Augustin, donc qui intervient au 5e siècle, le caractère, si vous voulez, d'opposition entre un ordre éternel, céleste, si vous voulez, et un ordre temporel, terrestre. Alors, ce que j'indique au passage également, j'ai mentionné l'opposition, si vous voulez, entre la cité universelle et les cités humaines. Forcément, la question ne pouvait pas ne pas se poser, avec la christianisation progressive de l'Empire romain à partir de Constantin, et puis surtout les menaces pesant sur l'Empire lui-même, puisque vous savez que saint Augustin écrit notamment la cité de Dieu, tout de suite après la mise à sac, enfin un peu de temps après la mise à sac de Rome par les Visigoths. Alors, comment caractériser très rapidement cette pensée de saint Augustin qui a une... et qui va déboucher sur ce qu'on appelle l'augustinisme politique et qui va connaître une très grande postérité. Hein. J'en dirai un mot. C'est donc une opposition, si vous voulez, une subordination extrêmement nette, radicale, entre ces deux ordres, hein, l'ordre céleste et l'ordre terrestre. Et donc il écrit en 413 la cité de Dieu, qui n'est pas l'Église, hein, qui est beaucoup plus large et qui est largement d'ailleurs non temporelle, donc qui dépasse, et la cité terrestre qui elle-même n'est pas seulement l'État. C'est toute construction, si vous voulez, humaine, opposée à l'ordre divin, si l'on peut dire. Et pour lui, donc c'est ça qui caractérise vraiment sa pensée, l'ordre de cette cité, n'est-ce pas, l'ordre temporel, est totalement relatif, subordonné à l'ordre de la cité céleste. Donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'autonomie possible d'une communauté humaine en dehors, n'est-ce pas, de cette référence permanente à la cité de Dieu, comme il l'appelle. Alors, avec toutes les conséquences que ça emporte, toutes les lois humaines, les lois terrestres ne seront que subordonnées ou devront être subordonnées à ce qu'il appelle, n'est-ce pas, la loi éternelle, la justice qui tient tant de place dans sa pensée. Souvenez-vous, c'était déjà le cas chez Platon, bon, c'est évidemment un thème omniprésent en philosophie politique, est elle-même subordonnée à la justice chrétienne qui est liée à la grâce. Alors, s'il faut caractériser, si vous voulez, par rapport à la question qui nous préoccupe, toujours en partant de la communauté, pour lui, donc, la domination de l'homme sur l'homme est une conséquence du péché, n'est-ce pas ? Et alors, il y a des phrases assez terribles, c'est que cette domination doit être admise de bon cœur. Alors, il explique comment l'esclave, en principe, doit de bon cœur être soumis à son maître, parce qu'en fait, il doit découvrir la véritable liberté, et que la situation de servitude terrestre dans laquelle il est n'est qu'une conséquence du péché, donc finalement, ça n'a pas grande importance. Plus largement, le gouverné, n'est-ce pas, doit obéissance au pouvoir. Alors, vous voyez la portée que ça a. Il insiste très, très fortement sur le « rendez à César ce qui est à César hein. ». C'est une. Alors d'ailleurs, ce texte évidemment de l'Évangile, plus que dit saint Paul, est très largement commenté, développé, pour justifier la soumission au pouvoir civil. Il y a une nécessité donc de se soumettre. Bon, le terme de pouvoir civil hein, n'est pas de l'époque, mais enfin en tout cas au pouvoir temporel, plus exactement. Alors, quelle est d'ailleurs la vocation, la mission du pouvoir temporel, de l'État de l'époque, l'Empire en particulier, c'est de faire régner la justice. Alors, même s'il est entendu qu'il n'y a pas de vraie justice, hein, donc en dehors de justice plénière, en dehors de la cité de Dieu, mais cette justice humaine doit être le reflet de cette justice divine. Et alors, de là découlent des conséquences, en particulier qu'il ne peut pas y avoir d'État digne de ce nom en dehors de la chrétienté, hein, n'est-ce pas, puisque tout doit être reflet de l'ordre divin, de l'ordre chrétien. C'est intéressant, c'est de voir que la notion de peuple pour saint Augustin, il critique, il y avait une notion qui était romaine, qui était héritée de Cicéron, qui regardait le peuple comme lié, si vous voulez, comme unissant les hommes, mais par un lien de droit, simplement. Une grande caractéristique de la pensée romaine, ce qu'on appelait le iuris consensu. Alors, il y a une certaine critique de cette conception cicéronienne par saint Augustin, et alors, saint Augustin nous dit, dans la cité de Dieu, « Le peuple est une multitude d'êtres raisonnables, associés par la participation dans la concorde au bien qu'ils aiment. » Alors il développe ça assez largement et bien entendu, si vous voulez, que tous ces biens aimés doivent être en référence à Dieu, qui lui-même doit être d'ailleurs le seul bien ultime aimé, sans quoi d'ailleurs il n'y a pas de concorde possible. Sans aller beaucoup plus loin, ce qui est quand même très caractéristique de la pensée de cette époque, très clairement exprimé massivement par Augustin, c'est cette double influence qu'on sent très nettement, à la fois stoïcienne et surtout platonicienne. Vous vous souvenez de la présentation qu'on avait faite de ce que j'avais essayé de vous dire, de la République de Platon? C'est très frappant, on retrouve des pans entiers, enfin, en tout cas toute la conception générale d'un ordre politique reflet, si vous voulez, d'un ordre divin contemplé chez Platon par les philosophes, on le retrouve quand même à très grands traits chez saint Augustin. Et comme je l'indiquais, on est très loin quand même de la pensée d'Aristote qui, et on va voir d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment elle va ressurgir un peu plus tard, qui reconnaît un bien particulier à la communauté. Et bien entendu que dans la conception d'Augustin, il ne peut pas y avoir de bien propre à la communauté humaine, hein, puisque tout bien est en référence à l'ordre divin et chrétien. Alors, cette pensée d'Augustin va déboucher sur ce qu'on appelle l'augustinisme politique, et qui va affirmer, alors, des quantités, d'autant plus que ça va s'étendre sur un bon nombre de siècles, finalement, en fait, d'ailleurs, jusqu'au XIIIe siècle, c'est ça qui est intéressant, jusqu'à donc la fin du Moyen-Âge, XIIIe siècle, donc avec des mesures, des formulations différentes, mais cet augustinisme politique qui se caractérise par une affirmation, tout simplement, de la primauté radicale de l'ordre spirituel sur l'ordre temporel. Ce qui veut dire, un auteur, le naturel est absorbé dans le surnaturel. Alors, il y a eu tout de suite d'ailleurs après Augustin, je crois, oui c'est ça, à la fin du 5e siècle, un pape Gélase, vous vous souvenez qu'on avait parlé en histoire l'an dernier, qui a cherché à préciser cet ordre de subordination entre le pouvoir temporel et le spirituel, à reconnaître une certaine autonomie à l'ordre politique, en distinguant, c'est intéressant, l'auctoritas, si vous voulez, sacré qui était reconnu au pontife, de la potestas qui était reconnue au pouvoir civil, royal ou impérial. Malgré ces tentatives, je dirais, de relatif cloisonnement, si vous voulez, de définition, en tout cas des domaines, des frontières, la dérive a été à peu près inévitable, et cette doctrine générale, si vous voulez, de l'augustinisme politique, c'est une subordination très nette, alors avec toutes les conséquences pratiques que cela engendre. Vous vous souvenez de ce qu'on avait étudié l'an dernier en histoire, de l'ordre temporel à l'ordre spirituel. Et ceci vaut, en fait, jusqu'à la fin, donc c'est pour une très longue période, n'est-ce pas, de l'Empire carolingien, soit 11e siècle. Et alors, après ça, se situe une période de deux siècles qu'on appelle, on avait parlé, je crois que personnellement vous en avez parlé, la lutte des deux glaives, précisément, l'opposition des deux pouvoirs, qui s'achève au XIIIe siècle par une victoire de la papauté sur l'Empire. Donc, vous voyez dans quel contexte politique, je dirais, sous un regard de philosophie politique, on se situe. On est quand même dans un climat qui est très très largement néo-platonicien, hein, inévitablement. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Moyen-Âge? C'est là que les choses vont bouger. Alors attention, pratiquement, elles bougent énormément avec la chute de l'Empire romain, la constitution des royaumes, mais il y a un fait très significatif qui commence, qui s'élabore et qui s'affirme au Moyen-Âge, c'est l'émergence, si vous voulez, de l'idée médiévale de l'État. L'État se structure, il va progressivement aboutir, n'est-ce pas, avec la Renaissance, à l'État moderne, tel que on le connaît encore très largement aujourd'hui. Et quand même, à l'époque, il ne faut pas brûler les étapes, hein, nous ne sommes que au Moyen-Âge, pour l'instant, et bien entendu que l'État, comme qui incarne, si vous voulez, le pouvoir politique, est d'institution divine. Il n'est pas question pour l'instant de lui reconnaître une autre source possible, et la raison d'être de l'État, ça je l'ai dit et c'est une grande constante, c'est toujours de faire régner la justice, la loi au sein des États étant l'expression, si vous voulez, de cette justice. Alors c'est, si vous voulez, dans ce cadre là dans ce Moyen-Âge qui est si mouvant avec une transformation profonde de la société, mais qu'arrive en quelque sorte, enfin qui fait irruption le thomisme politique, avec la pensée de, politique de saint Thomas. Alors bon, vous savez, si bien que moi, sûrement mieux que moi, ce n'est pas la pensée politique n'est pas la pensée dominante chez lui. Il y a eu des réflexions politiques chez saint Thomas, qui ne sont pas sa préoccupation première, qui sont souvent d'ailleurs cachées derrière sa théologie, c'est le cas d'ailleurs pour l'ensemble de sa philosophie. Et alors, à la réflexion, ce qui est frappant, c'est de voir combien il est difficile, en fait, de qualifier ce thomisme politique. On peut le décrire à grands traits, bien qu'il y ait des zones encore, des zones d'incertitude, mais il tient une place quand même très originale par rapport à ce qui précède et par rapport à ce qui suit. On va tâcher de voir comment. Quelles sont, très rapidement brossées, les conceptions de saint Thomas. Pour lui, alors première différence radicale, et vous allez tout de suite retrouver la source, le pouvoir étatique, n'est-ce pas, politique, a un fondement naturel, qui est lié à la nature de l'homme. Donc, il ne s'agit pas du tout de quelque chose de purement conventionnel qui était nécessité par l'état de péché dans lequel l'homme était tombé après la chute. Donc, vous voyez le fondement. Alors ça, il est très net là-dessus. Vous voyez le fondement aristotélicien qui apparaît dans toute sa splendeur. Pour lui, l'homme... Alors il reprend d'ailleurs ce que dit saint Thomas, est un animal politique et donc il a une propension naturelle, si vous voulez, à vivre en société, en communauté, et il en tire les conséquences. Il y a donc, parce qu'il y a ce fondement naturel, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit chez Aristote, et ça je crois qu'il faut ne jamais oublier ce métaxus, si vous voulez, c'est parce qu'il y a fondement naturel qu'il y a un principe propre à cet ordre. S'il n'y avait pas de fondement naturel, il n'y aurait pas, je dirais, de principe régissant cet ordre particulier qu'est l'ordre politique. Si on n'a qu'un ordre artificiel, il n'y a aucune raison qu'il y ait un principe qui vienne le régir. Mais parce qu'il y a ce fondement naturel, il y a un principe propre. Ce principe propre, vous savez lequel c'est le bien commun. Alors le terme de bien commun est utilisé assez couramment par saint Thomas. Il nous dit que toutes les fins du pouvoir tiennent ce... j'ai oublié le terme latin, alors évidemment plus c'est pas traduit, dans le bien commun. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très clairement dans la pensée politique de saint Thomas, c'est par rapport à ce bien commun que se fonde toute souveraineté, et en particulier celle du pouvoir. Hein, donc la légitimité du pouvoir politique s'opère par rapport au bien commun. Alors ça, je crois qu'il faut bien mesurer ce que ça représente. Vous constatez, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est pas du tout par rapport à un droit divin. Alors que dans l'idée générale, qui prévalait encore jusqu'au Moyen-Âge, le pouvoir était d'institution divine. Pas du tout, pour saint Thomas. Le pouvoir tire sa légitimité du bien commun. C'est ce qui fait dire à un écrivain de ce siècle, enfin un analyste politique, qui a une pensée extrêmement fine, Georges de Lagarde, et ça, je crois que c'est peut-être une... Pour tenir une seule formule, retenez celle-là dans la pensée de saint Thomas. L'État a une légitimité d'objet, le bien seul est souverain. Alors on en reparlera tout à l'heure pour voir comment, à mon sens, on peut opposer cette légitimité d'objet dans une vision aristotélico-thomiste du pouvoir à la légitimité du sujet qui va prévaloir à partir d'Occam. Et plus clairement encore à partir du XVIIe siècle. Bon, on y reviendra. Mais je crois que c'est vraiment très important de relever ça. Vous voyez comme quoi, sur cette question, au sens propre du terme, fondamentale, ça regarde le fondement de la communauté, saint Thomas est en porte-à-faux par rapport à toute la pensée contemporaine. Ça, je ne sais pas si ça a été suffisamment relevé, en tout cas pas par... assurément pas suffisamment, en sens, par la scolastique, qui a sûrement dégradé la pensée politique de saint Thomas, et qui a voulu, même on le voit chez Gilson, qui a réduit d'une certaine façon la pensée politique de saint Thomas à un conditionnement fort de sa pensée éthique. Et ça, je crois que c'est une erreur. Je crois vraiment que... Bon, enfin, ça pourrait faire l'objet de travaux supplémentaires, si ça vous attire, mais il y a de quoi faire, en tout cas. Alors, évidemment, ce qui est très frustrant chez saint Thomas, c'est qu'on va voir la même frustration que chez Aristote, c'est que ce qu'est le bien commun, il ne précise pas. Quel est-il ? Hein, c'est quand même notre question. Eh bien, il nous laisse très largement dans le vague, en tout cas tout autant que je n'avais pu le faire quand je vous avais présenté les pensées d'Aristote. Alors, ça suscite l'ordre, la justice, bien sûr, bon, tous les éléments dont on a parlé, mais ce qu'il est lui-même, le tiesti, j'allais dire, du bien commun, bien, à ma connaissance en tout cas, il ne le précise pas. Alors, un élément encore sur saint Thomas, parce que je crois que c'est très intéressant. Enfin, en principe, on a une question disputée sur ce thème, donc j'espère qu'on pourra revenir dessus. Mais là encore, on voit vraiment toute l'originalité de la pensée thomiste en matière politique, c'est la conception thomiste de la loi. Pour lui, très, très logiquement, d'une façon parfaitement cohérente, la loi, c'est, si vous voulez, une ordination de la raison. La raison est ordonnée au bien commun. La loi est établie et promulguée par celui qui a la charge de la communauté. Bon, ça, c'est évident. C'est pas ça le plus important. Mais c'est cette ordination complète, si vous voulez, de la raison au bien commun. Et alors, il va établir une hiérarchie, mais pas une subordination aussi stricte que Augustin voulait l'entendre, entre trois types de lois. Il dit, il y a une loi éternelle qui est la prescription, en somme, de la raison divine. Il y a, c'est ça, c'est très intéressant, une loi naturelle, alors tout ce thème de loi naturelle qui est omniprésent depuis les stoïciens, et même avant, il y a une loi naturelle qui est présente en toute créature raisonnable et qui exprime la participation de cette créature à la loi divine, à la raison divine. Vous voyez la cohérence complète de sa pensée dans les différents champs, une participation de la créature à l'essence divine. Et puis alors il y a une loi humaine qui est l'expression particulière de cette loi naturelle et qui, elle, est contingente dans sa forme. C'est-à-dire qu'elle va changer, elle peut changer avec le temps et avec le lieu. Et c'est donc, ça va d'ailleurs être une des tâches du pouvoir politique, de l'État, si vous voulez, de produire cette loi humaine qui doit toujours respecter, n'est-ce pas, la loi naturelle. Mais ceci avec toutes les variations autorisées par les changements de circonstances, de temps, de lieu, de droit, de fait, que l'on peut imaginer. Vous voyez, à grands traits comme ça, une pensée qui est, je trouve, extrêmement originale. Pas parce que c'est saint Thomas, mais... Alors donc, originale parce que, aussi, bon, par rapport à ce qui précède, par rapport à ce qui suit. Parce que tout de suite après saint Thomas... on a cette période étonnante, enfin, ce seuil enfin, 13e, 14e siècle, enfin, plus exactement. Saint Thomas participe évidemment à cette période. On a eu, n'oublions pas, c'est ça qui était sur place, saint Thomas dans le grand mouvement de l'époque, qui est l'affirmation de l'État face à la papauté. Ce qui est très étonnant, c'est que cette irruption, ce retour, si vous voulez, à l'aristotélisme, va jouer d'une façon particulière. Il ne faut pas oublier que saint Thomas n'est pas le seul, quand même, à avoir remis en scène, je dirais, la politique, la pensée d'Aristote. Ça a commencé avec Albert le Grand, et puis à la suite d'Averroès également au siècle précédent. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette pensée, vous le voyez, donne une arme, si vous voulez, pour fonder, naturellement, la communauté. C'est donc une arme qui est donnée au pouvoir temporel face au pouvoir spirituel. Et indiscutablement, l'aristotélisme va être utilisé dans ce sens. C'est assez intéressant. Alors, il y aura aussi, d'ailleurs, la résurgence et la reprise et toutes les études faites à l'époque sur le droit romain qui vont jouer dans ce sens. Mais on voit très bien que dans une querelle qui oppose Philippe le Bel au pape de l'époque, qui est Boniface VIII, juste au tournant du XIVe siècle, entre le XIIIe et XIVe, là, pendant quelques années, donc un État qui se structure, celui qui va devenir la France, l'argument, si vous voulez, du fondement naturel de l'État joue très largement en faveur du souverain, je dirais, étatique, national, bien que le terme ne soit pas encore celui-ci, au détriment de la papauté. Alors ça, c'est, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, parce que c'est... alors, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles le thomisme politique n'a pas connu, dans la pensée politique, je dirais, une grande postérité? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être étudier ça. Ce n'est pas impossible. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette même période, 13e-14e, il y a l'irruption d'un autre auteur qu'on connaît bien, au moins de nom, c'est Occam, n'est-ce pas, au 14e, donc un siècle après. Avec lui, un apport tout à fait d'un autre ordre, c'est son nominalisme, n'est-ce pas, qui entraîne l'individualisme. Alors, ce qui est très intéressant chez Occam, c'est qu'évidemment, son individualisme ne se manifeste pas du tout comme il va se manifester, je l'ai dit tout à l'heure, chez les libéraux anglais du XVIIe siècle. Mais c'est intéressant de voir comment il définit l'Église. Pour lui, l'Église est une somme de chrétiens individuels. Alors, vous voyez que... alors, vous vous souvenez de ce qu'a dit Pierre Samuel la dernière fois en vous le présentant, c'est la volonté divine qui fait l'unité de la communauté. Alors, rétrospectivement, vous voyez très bien que quand vous aurez retiré la volonté divine, qu'est-ce qui fera l'unité de la communauté? Et c'est bien là qu'il faudra, j'allais dire, inventer le concept de souveraineté pour venir combler le vide. Je ne connais pas évidemment particulièrement la pensée d'Occam, mais je suis très frappé de voir toutes les réminiscences que l'on trouve occamiennes chez les auteurs. Hobbes se revendiquait cette paternité de pensée qu'il y a chez Occam, et tous les libéraux en général. Donc c'est quand même très significatif, et ça rejoint certaines remarques qui nous sont faites sur les conséquences de la pensée occamienne dans l'ordre de la métaphysique en particulier. Donc vous voyez que il y a là aussi la source d'évolution future radicale qui n'émerge pas tout de suite. Hein, on est au 14e et on est dans un contexte encore totalement religieux. Hein. Occam s'oppose farouchement, bien sûr, au pape, mais il ne remet pas du tout en cause cette primauté, si vous voulez, de l'institution divine. Mais pour lui, il n'existe pas du tout de bien propre à la communauté. Donc vous voyez que on a deux, émergents de la période médiévale, on a deux pensées originales, celle de l'euthomisme et celle d'Occam, et c'est celle d'Occam qui va connaître la plus grande postérité. Et l'euthomisme politique, en fait, ne connaîtra pas de résurgence significative, en tout cas à ma connaissance, mais ça se saurait dans les siècles qui vont suivre. Alors, si on fait un peu le point en cette fin du Moyen-Âge, à l'aube, je dirais, de la Renaissance, donc vous voyez, ce qui est très significatif, c'est que le grand thème général de l'affrontement de l'État à la papauté, qui en fait a marqué tous les siècles précédents, ce que je viens de survoler si rapidement, prend quand même un tour nouveau avec une structuration très réelle des États et un affranchissement progressif du pouvoir spirituel. L'augustinisme politique n'est plus de mise, assurément, à l'aube de la Renaissance. Il n'y a pas d'interrogation, c'est intéressant aussi par rapport à la question qui est la nôtre, pas d'interrogation véritable, en dehors de celle que j'ai mentionnée, mais sur la communauté, c'est l'État qui la représente. Hein. Les États se sont structurés progressivement, donc on ne regarde plus la communauté en tant que telle, on regarde l'État. Et je crois que c'est aussi un mouvement qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va favoriser, si vous voulez, un regard très, très formel de la pensée politique dans la suite. On va s'intéresser à l'État lui-même en oubliant peut-être un peu la communauté qu'il y a derrière et qu'il fonde. Alors, bon, au 15e, 16e siècle, donc la Renaissance, bon, et puis alors la Réforme, qui se caractérise par quoi? Ce qui est très significatif, c'est que les deux mouvements sont convergents. Il ne faudrait surtout pas faire, à mon sens, pour faire porter à la Réforme plus qu'elle ne mérite de porter. C'est vrai qu'il y a eu des formulations très nettes, je l'ai évoqué tout à l'heure au début de la séance précédente chez Calvin, mais l'émancipation radicale du pouvoir temporel, enfin croissante en tout cas par rapport au pouvoir spirituel, existait en germe bien avant la Réforme déjà. Hein. Alors, quelles sont les conséquences pour la question qui nous préoccupe? C'est que, c'est un peu ce que je disais il y a un instant, puisque le pouvoir civil, en quelque sorte, s'émancipe, il va falloir lui trouver une légitimité. Et donc, on ouvre la porte, et d'ailleurs, je vous l'ai dit, Bodin, hein, c'est la fin du XVIe siècle, on ouvre la porte à toute la pensée, enfin, toutes les pensées, en tout cas, sur la souveraineté au sein de l'État. C'est-à-dire, d'où procède? Qu'est-ce que la souveraineté et d'où vient-elle, n'est-ce pas? corrélativement, et ça je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue les deux aspects, la finalité de l'État, si vous voulez, va se contracter. Je dis se contracter, c'est-à-dire que, c'est très net d'ailleurs chez Calvin, par exemple, pour lui, l'objectif, si vous voulez, de l'État, alors c'est vrai que Genève, c'est pas... n'est qu'une ville, mais le rôle du pouvoir politique, en tout cas, sera de faire régner l'équité et la justice civile. Hein, c'est comme ça qu'il définit la fin de l'État. Donc, en caricaturant un peu, on pourrait dire que finalement, il va confier à l'État simplement des pouvoirs de police, c'est-à-dire régner le bon ordre, la tranquillité, la salubrité publique, si vous voulez. La paix à l'intérieur et à l'extérieur, diront plus tard les libéraux anglais. Mais, vous voyez que au moment où on n'a plus d'interrogation sur la communauté et où le mouvement individualiste va se développer, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il prend racine, donc à l'aube de la Renaissance, et puis ensuite ça va se développer jusqu'à la Révolution, pour ne plus nous quitter, eh bien, la fin de l'État est résorbée, si vous voulez. Enfin, en tout cas, est abaissée, en quelque sorte. Je veux dire, en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, le but de l'État n'est finalement, c'est un instrument au sens très, très, très grand du terme, mais on y vient en quelque sorte par nécessité et on va lui demander d'assurer un certain état de la société. Donc vous voyez que, à nouveau, enfin je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas du tout dans la perspective d'Aristote, hein, d'un bien extrinsèque au corps communautaire. Et à nouveau, vous voyez que la pensée de politique de saint Thomas, en tout cas, on n'a pas cherché, je pense, à la mettre particulièrement valeur, mais enfin n'a pas connu de postérité significative. Alors le nouveau saut, n'est-ce pas, qui va s'opérer, c'est évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure avec nos deux auteurs, mais le XVIIe siècle. Alors c'est quand même très frappant, si on va très vite, il y a deux aspects qui sont très significatifs. Donc, le premier, c'est l'émergence d'affirmation très nette individualiste, donc, comme je l'ai dit, qui est apparue moins deux ou trois siècles plus tôt dans la pensée chez Occam, et puis une volonté toujours plus affirmée, cette fois-ci, mais très nette au XVIIe siècle, de s'affranchir de la religion. Et c'est la raison qui va venir se substituer, si vous voulez, à elle, comme principe de la construction de l'État, si vous voulez, en tout cas de la justification de l'existence de l'État. Toute référence transcendante, d'une certaine façon, va être, progressivement, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais écartée. On voit très bien que ça va très vite. En deux siècles, on va avoir des pensées qui vont écarter radicalement toute référence divine à l'État. Et puis alors, simultanément et conjointement, et c'est ça qui est intéressant, c'est le progrès des sciences, dont on a eu une manifestation, j'ai souligné chez Hobbes tout à l'heure, mais qui va inciter la pensée politique, si vous voulez, à être beaucoup plus constructive qu'elle ne l'était et à admettre de moins en moins un ordre transcendant qui serait complètement extrinsèque et qui s'imposerait à elle. Alors, à nouveau, conséquence, n'est-ce pas, de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de communauté en tant que telle. À partir du moment où on reconnaît le fondement individualiste, il va falloir trouver, agréger les individus. Hein, la question est donc nouvelle, et d'où tout le développement de cette pensée sur, on l'a dit tout à l'heure, les contrats, les pactes, les relations de confiance qui vont pouvoir s'établir entre les individus ou entre les individus et eux-mêmes et le souverain. Mais enfin bref, sur une pluralité de modalités, enfin, c'est sans fin, on peut d'ailleurs toujours en imaginer, mais c'est toujours un moyen artificiel, si vous voulez, qu'on va chercher à mettre en place pour agréger les individus. Et puis, simultanément, ce que je disais, c'est quand même la perte du sens de la finalité au niveau de la communauté. Moi, c'est ce qui me frappe beaucoup, là, ces petites études à travers ce survol, c'est que pourquoi, finalement, cette notion de bien commun est-elle si peu présente dans la pensée politique? Je crois qu'on ne peut voir ça qu'à la lumière de ce qui fonde la communauté. Il ne faut jamais distinguer les deux. Et, comme par hasard, c'est lorsque l'on dénie à la communauté un fondement naturel que l'on voit le bien de la communauté disparaître. Indiscutablement, et se résorber dans un certain état de la société qu'on va pouvoir définir à l'encan, à n'en plus finir, mais qui n'est plus un bien supérieur, si vous voulez, souverain, comme Aristote et saint Thomas pourront le considérer, le voir. Alors, ce qui est étonnant, quand même, deux mots pour ce XVIIe siècle, c'est qu'on est quand même frappé un peu du parallèle avec ce qu'on nous enseigne ici en matière de philosophie première, si vous voulez, c'est ce primat aussi de la logique et des mathématiques. Il y a une séduction très forte de l'aspect formel, si vous voulez, de la clarté formelle des mathématiques pour l'esprit, qui s'exprime d'une façon très nette chez Hobbes. Hein, on va construire une machine mécanique, un état purement rationnel. Et c'est aussi, très révélateur, le primat de la relation au détriment de l'être. Et toute la pensée va s'interroger précisément de comment arriver à établir une relation entre les individus, si on en écarte une, naturelle, au départ. Moi, ce qui me semble, encore, hein, il faudrait creuser tout ça, mais ce sont des pistes que je suggère, c'est que, autant on a voulu, pendant ce siècle, qui est vraiment le siècle clé, hein, point de vue pensée, beaucoup plus que le 18e, on a voulu élaborer une philosophie, je dirais, distincte de la théologie, on a voulu élaborer une philosophie politique, exempte de toute référence religieuse de la même façon. Si vous voulez, l'oubli de l'être que l'on constate en métaphysique à cette époque, ça s'accompagne d'un oubli du bien en communauté corrélatif. Alors c'est vrai, vous pourrez me dire, mais il n'était pas beaucoup plus présent auparavant. Mais il y a quand même une évolution qui est nette. On ne peut plus retrouver le bien commun avec les présupposés de la pensée, et de la pensée politique en particulier, au XVIIe siècle. Alors, le XVIIIe siècle, corrélativement, en comparaison, c'est surtout... Bon, alors, il y a effectivement Rousseau. À la fin, je voudrais, de nouveau, pour lire un petit quelque chose qui montre qu'on ne peut pas en tenir là et qu'il ne faut pas croire que c'est une espèce d'évolution sur laquelle on ne peut parvenir. C'est d'abord, avant tout, le siècle de la diffusion du modèle britannique, enfin, du modèle anglais, du libéralisme anglais. Alors, face à l'absolutisme royal incarné et honni... De Louis XIV, honni par les Lumières en français. Alors, on le voit très nettement par exemple, chez Montesquieu, hein, qui est vraiment le triomphe de cette pensée libérale, exigeante à certains égards, mais aussi, je crois que c'est Raymond Aron qui dit, Montesquieu, qui est quand même un des deux grands auteurs français, hein, qui a marqué la Révolution avec Rousseau, je crois que c'est Aron qui dit de lui que c'est peut-être le dernier philosophe politique, mais surtout le premier sociologue. Et c'est vrai qu'on glisse avec l'esprit des lois, si vous voulez, à nouveau vers un aspect radicalement formel, voire efficient, mais l'aspect final est complètement perdu. Bon, et puis alors, comme je l'ai dit, il y a les événements de la fin du siècle. Alors, j'ai trouvé un petit passage de Rousseau que je voulais vous citer à ce moment-là, qui est intéressant parce que il montre que on ne peut pas s'arrêter à l'individualisme tel qu'il nous vient, même très élaboré, plus élaboré que chez Locke, de la pensée du XVIIe. C'est pour ça d'ailleurs que Rousseau a cherché, comme je l'ai dit tout à l'heure, à élaborer une espèce d'individualisme, ce qu'on appellera quelquefois, paradoxalement d'ailleurs, parce que les termes sont antinomiques, un individualisme communautaire, n'est-ce pas? Mais il était très conscient, je dirais, de la difficulté qu'il y avait précisément à reconstituer une communauté dont on estimait qu'à l'état de nature, elle n'existait pas. Alors je voudrais vous lire ce petit passage, que je trouve quand même très 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 significatif. C'est dans une lettre au marquis de Mirabeau, Mirabeau père, le père, celui qui s'illustrera quelques années après, qu'il évoque la question, la difficulté qu'il y a à trouver une forme de gouvernement, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qui mette la loi au-dessus de l'homme. Parce que c'est toujours bien la question. Hein. Si on a écarté toute référence divine, comment justifier la primauté de la loi sur l'individu? C'est la rançon de l'individualisme. Alors voilà ce qu'il dit, donc sur la forme de gouvernement. Alors vous allez voir d'ailleurs que ça date de 1767 et qu'il est d'un pessimisme assez étonnant quand même. Il dit, si cette forme est trouvable, cette forme de gouvernement qui met la loi au-dessus de l'homme, cherchons-la et tâchons de l'établir. Si malheureusement cette forme n'est pas trouvable, et j'avoue ingénument que je ne crois pas qu'elle l'est, mon avis est qu'il faut passer à l'autre extrémité et mettre tout d'un coup l'homme autant au-dessus de la loi qu'il peut l'être, par conséquent, établir le despote arbitraire et le plus arbitraire qu'il est possible. Alors vous voyez comment on part de Locke et on tombe dans Hobbes. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas, finalement, à imposer une loi qui est au-dessus de l'homme. Et alors, il a cette phrase que je trouve étonnante, et je voudrais que le despote pût être Dieu. Et en un mot, je ne vois point de milieu supportable entre la plus austère démocratie et le hobbisme le plus parfait. Donc, vous voyez que c'est ce qui est quand même très beau dans la pensée de Rousseau, c'est qu'il est parfaitement conscient de cette difficulté et de cette espèce de rançon de l'individualisme forcené. À partir du moment où tout procède de l'homme, comment imposer quelque chose à l'homme ? C'est la question clé. D'où la fiction, si vous voulez, fiction entre guillemets, de la volonté générale, qui pour lui donc va pouvoir s'exprimer par le contrat social. Mais vous voyez, comme si dans la pensée tout s'était résorbé, comment dire, à un niveau résolument humain et j'allais dire individuel, et qu'on cherchait à tout prix maintenant à pouvoir le dépasser pour pouvoir trouver un ordre qui s'impose à tous les individus. Donc il faut recréer une transcendance, en quelque sorte. Et pour lui, cette transcendance politique, c'est la volonté générale. Alors, vous voyez, je voudrais que ce pût être Dieu, dit-il. C'est quand même extrêmement frappant. Alors, quelques mots simplement là pour finir sur... il y a lu des choses intéressantes sur le début de la période révolutionnaire en France, donc en 89, avec cette ambiguïté entre... alors justement, c'est dans la foulée même de Rousseau qui s'exprime et qui ne cesse d'ailleurs de marquer notre droit public, entre cet aspect précisément individuel, cette souveraineté de l'individu, et en même temps la nécessité d'une volonté générale, ou en tout cas d'une souveraineté forte, qu'on va appeler progressivement souveraineté nationale, alors je ne développe pas ce thème, mais il y aurait beaucoup à dire là aussi, mais qui vient contrebalancer en quelque sorte la souveraineté individuelle. Je vous rappelle donc la déclaration du 27 août 89, qui a été rendue en vue du bonheur universel et au nom de la raison universelle. Et donc cet article 1 que je citais tout à l'heure, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc le but, ça c'est donc purement dans l'optique individualiste libérale, l'association politique a pour but de maintenir et de sauvegarder ces droits fondamentaux de la personne. Mais dans la même déclaration, on vous affirme donc là, comme je vous l'ai dit aussi, la souveraineté nationale. Et là on se rapproche de Rousseau. Comment arriver, c'est donc toute la question, à trouver une volonté générale qui transcende les volontés divines, comment, sachant que la loi est donc les volontés individuelles, pardon, sachant que la loi est l'expression de la volonté générale. C'est donc ça, c'est du Rousseau. Donc vous voyez, il y a ces deux influences qui sont en fait quasi contradictoires, en tout cas, et cette opposition, si vous voulez, ne peut pas être résolue, j'allais dire par définition. Tout notre droit, tout le droit français, qui a imprégné un bon nombre aussi d'autres droits européens, va vivre désormais en fait dans cet équivoque entre les deux souverainetés. Et l'article que je vous citais de la Constitution, de notre Constitution de 1958, l'exprime bien. La souveraineté nationale appartient au peuple. Souveraineté nationale, donc, il s'agit bien d'une transcendance face à tous les individus, appartient au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça... Alors, bon, en fait, les analyses constitutionnelles étaient très conscientes de cet équivoque, mais on n'a pas pu la lever. Vous voyez ? Alors, je crois que, pour terminer, deux petites choses, ce qui me frappe aussi à la réflexion, c'est que cet argument de souveraineté qu'on a dû, j'allais dire, inventer pour trouver une légitimité au pouvoir étatique, s'est retourné en quelque sorte contre l'État. À l'origine, vous savez, on s'est servi de la souveraineté pour justifier la force du pouvoir étatique face au pouvoir spirituel, etc. Bon, enfin, pouvoir spirituel à l'époque, XVIe siècle. Bon, et puis XVIe, XVIIe. Finalement, cet argument de souveraineté, confié entre les mains de l'individu, il se retourne contre l'État, d'une façon. À partir du moment où cette souveraineté est entre les mains des individus, l'individu est souverain, il ne va plus tolérer qu'une autre souveraineté s'impose à lui. Vous voyez ? Et alors, de cet équivoque, on ne sort pas. Et... dès lors, si vous voulez, il me semble que le fondement individualiste est proclamé, il n'y a plus de communauté naturelle, n'est-ce pas ? Et on se heurte au problème, à mon sens insoluble, de savoir comment faire assurer la primauté d'une loi sur tous les individus. Alors, je crois que, si vous voulez, c'est le corollaire de la question comment, qui en fait nous intéresse, comment admettre l'existence d'un bien en communauté si on ne reconnaît pas le fondement de la, un fondement naturel à la communauté. Je crois que, en fait, l'oubli du bien commun en communauté appelle cet équivoque radical au niveau des institutions politiques, de la pensée politique et des institutions qui vont suivre. Et donc, finalement, la fin de l'État, comme je l'ai dit plusieurs fois, va se résorber dans un état de la société, finalement. La protection, la sauvegarde, la paix, on pourra appeler ça de façon la plus noble qui soit, mais c'est un état de la société composé d'individus qu'on va chercher à faire prévaloir. Voilà un peu ce que m'inspirait. Alors bon, c'est très rapide, c'est un peu confus aussi. C'est pas facile d'arriver, si vous voulez, à déceler des grands axes. Retenez cette idée, hein, que je mentionnais au passage à propos de saint Thomas, d'une légitimité d'objet. Est-ce qu'en fait, tout le problème ne vient pas de l'opposition d'une légitimité du sujet à une légitimité de l'objet? Je me demande si tout ne vient pas de là, en fin de compte. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui.
J'aurais une question par rapport à la loi naturelle qui va ressurgir quand même.
Oui.
Assez fortement au 18e.
Oui.
Et finalement, d'où vient cette notion? Et est-ce qu'on peut y voir une certaine parenté avec ce que saint Thomas, ce que saint Thomas a pu dire de l'enracinement dans la nature, de la communauté?
Alors, d'abord, ce qu'il faut. C'est pas un sujet que j'ai travaillé en tant que tel, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, je l'ai dit. C'est un thème qui a été omniprésent, en fait, dans la pensée politique. Hein. Le thème de la loi naturelle, il était présent, d'une certaine façon, chez les Grecs, il est omniprésent chez les Romains, et il ne quitte pas, si vous voulez, la pensée politique. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est donc quand saint Thomas en traite, il se saisit, comme toujours d'ailleurs, d'un thème qui est préexistant dans la pensée politique. Et lui l'interprète, si tu veux, à sa façon, et la relie, dans le sens que j'ai dit, à une loi supérieure, si tu veux, unique d'ailleurs, une prescription divine. Alors, est-ce que ça a un lien avec le caractère naturel de la communauté? Je suis embarrassé pour te répondre tout de suite, là. Je crois qu'il faudrait creuser, parce que le lien ne me paraît pas immédiat. Parce que, justement, comme tu le suggérais, ce thème de la loi naturelle est aussi bien utilisé par, je dirais, les individualistes. Il est d'ailleurs omniprésent dans la pensée du 18e, il est très présent chez Rousseau aussi. Donc, à mon sens, le lien n'est pas immédiat avec le caractère naturel de la communauté. Il faudrait regarder ce que dit, est-ce que Aristote se prononce là-dessus, j'en sais rien, il faudrait regarder, c'est intéressant. Je suis navré, je ne peux pas te répondre sur ce morceau-là. Oui.
Quelle est la place du sacre des rois par l'évêque Rémy dans l'évolution de cette pensée philosophique?
Oui, bah alors c'est toute la question du droit divin.
Ouais.
C'est un vaste sujet. Vous savez, il y a deux façons de concevoir le droit divin. Hein. Il y a une façon large et une façon étroite, comme toujours. Il y a une façon qui consiste à voir dans le souverain, l'expression même de la royauté divine. Alors ça, c'est une vision extrêmement contraignante, je veux dire exigeante, et que les souverains ont cherché, en certains cas, à certaines époques, à utiliser. Puis il y a une autre vision des choses. Et l'Église, beaucoup plus prudente d'ailleurs, souvent s'en est tenue là, consiste à rappeler par ce sacre que tout pouvoir, en fait, et c'est ce que dit saint Paul, vient de Dieu. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de pouvoir qui ne puisse être, en tout cas, permis par l'autorité divine. Et donc, c'est rappeler au pouvoir temporel que l'autorité qu'il détient, il la détient parce que Dieu l'a bien voulu ainsi. Mais ce n'est pas du tout la même chose, tu vois, que de regarder en lui le représentant de Dieu sur terre, en quelque sorte. C'est tout? Bon, alors, en principe, il y aura une autre... il devrait y avoir une ou deux autres séances faites par le Père Samuel. Alors, cette fois-ci, on va franchir, si vous voulez, le cap du XVIIIe siècle, et puis on va regarder un petit peu chez les modernes. Il faudra regarder chez Hegel ce qu'il en est, quand même. Et puis, chez quelques auteurs contemporains, j'espère qu'on pourra voir comment cette idée de communauté de bien est utilisée. Merci.
Merci.